en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour, comment nos papilles gustatives sont-elles reliées à notre cerveau? Pourquoi aimons-nous le sucré instinctivement et pas l'amertume? Et puis, sur un plan nutritionnel, plaisir et habitudes alimentaires font-ils bon ménage? C'est à ces questions que répondent André Ollet et Philippe Bénard lors d'un colloque organisé en juin 2007 dans le cadre des conférences du Pôle Innovation Alimentation Santé. Avant d'aborder le goût, ses plaisirs et ses conséquences sur notre régime alimentaire, avec le nutritionniste Philippe Bénard, débutons par l'intervention d'André Ollet, membre du Centre européen des sciences du goût. Il détaille pour nous la relation entre cerveau et goût. Le goût correspond aux sensations produites par les sens gustatifs et olfactifs, avec des capteurs tels que les papilles, ainsi que des filets nerveux qui montent vers le cerveau. Mais il ne faut pas oublier non plus l'odorat qui nous donne accès aux arômes, ainsi que l'ouïe qui nous permet d'apprécier le craquant et la dureté d'un aliment.
Qu'est-ce que c'est que le goût? Alors, c'est une question simple, mais en fait, il y a souvent beaucoup d'ambiguïté. D'abord, bien sûr, tout le monde a l'expérience du goût. Tout le monde sait ce que c'est que le goût. Seulement, lorsqu'il faut en parler, il y a quelques difficultés. Alors, il y a une définition simple, c'est finalement tout ce que nous ressentons quand nous prenons un aliment en bouche ou quand nous prenons une boisson. Ça, c'est une définition qui marche bien. Mais aussi, on peut concevoir une définition plus restreinte, un petit peu plus pour les spécialistes. On dira que ce sont les sensations produites, bien sûr, dans le nez et dans la bouche, disons des sensations qui sont produites par ce qu'on appelle les sens chimiques. Et les sens chimiques, c'est essentiellement le sens de la gustation, le sens du goût proprement dit, et le sens de l'odorat, de l'olfaction. Et puis si on veut être encore un peu plus précis, on va restreindre à ce moment-là le sens de goût au fonctionnement du sens gustatif, et vous comprendrez mieux si je vous parle de saveur, de papille et de bourgeon du goût, voilà, dans ces cas. Alors, le goût, c'est donc cela, et c'est cela dont nous allons un peu parler, d'où viennent en fait ces sensations que nous avons appelées du terme général de goût. Eh bien, il y a le système gustatif lui-même, qui est représenté ici par des papilles que l'on voit distribuées sur la langue humaine. Et puis, on voit que à côté de ces papilles figurent des filets nerveux. Ce sont les filets de nerfs qui montent vers le cerveau. On en aperçoit la base, le noyau en bleu là. Et puis ensuite, ça s'en va plus loin dans le cerveau. En fait, ces nerfs sont les nerfs gustatifs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a trois, principalement deux, le nerf numéro 7 et le nerf crânien numéro 9. Bien, mais à quoi servent ces nerfs? Eh bien, ils servent à recueillir les messages qui ont été engendrés dans les papilles du goût au niveau des cellules du goût, par l'arrivée de molécules qui sont porteuses de cette sensation, porteuses de ce message gustatif qui va être engendré ici et transmis au cerveau par les fibres des nerfs gustatifs. Un autre sens participe au goût. Et ce sens-là, c'est le sens de l'odorat qui nous donne accès aux arômes. Et ça, c'est tout aussi important que le sens gustatif. Vous savez très bien que si vous êtes enrhumé, par exemple, eh bien, vous n'avez pas la même perception des aliments parce qu'il manque en grande partie ce qui provient de la cavité nasale. En effet, quand on sent un aliment ou un autre produit, les molécules qui émanent de ces produits, de ces substances, de ces aliments, vont monter dans la cavité nasale, c'est la flèche rouge ici, et s'en aller vers les poumons, c'est la voie respiratoire. C'est celle qui nous permet de sentir les choses, les aliments bien sûr, à distance. Mais lorsqu'on a pris les aliments en bouche et qu'on les mastique, alors les substances volatiles s'échappent par l'arrière de la bouche et viennent remonter dans les fosses nasales, et c'est pour ça que nous avons une sorte d'odorat associé au goût, et les deux sont très étroitement associé, qui fait que vous ne savez pas vous-même, bien sûr, et je ne sais pas moi-même, en tant que consommateur, en tant que mangeur, ce que je ressens, c'est du goût proprement dit, ou bien, donc par conséquent des saveurs, ou des arômes. Eh bien, cela est possible, ce fonctionnement est possible parce qu'il y a dans les profondeurs de la cavité nasale, dans cette zone un peu plus verte ici, il y a des cellules. Ces cellules sont des cellules réceptrices des odorants et ces cellules-là, eh bien, elles communiquent leur message à ce bulbe olfactif en jaune qui lui-même, ensuite, va mener ça vers le cerveau, qui fait un traitement compliqué, sur lequel je ne m'étendrai pas ce soir, bien entendu. Mais c'est là, dans ces circuits un peu compliqués, que le message nerveux montant de la cavité nasale devient une odeur. L'odeur, elle n'est pas dans les substances, elle est dans la tête de ceux qui sentent. Ensuite, quelque chose qu'on oublie parfois, c'est un nerf qui est situé dans la tête, bien sûr, et qui a des filets qui innervent à nouveau la cavité nasale, mais aussi la langue, la bouche, les dents. C'est en fait un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau et qui a beaucoup de propriétés. C'est lui qui permet de ressentir des substances chimiques qui ont un caractère un peu particulier de substances irritantes. C'est lui qui permet de sentir, par exemple, la moutarde, le piment, le vinaigre, beaucoup de substances irritantes, l'ammoniac, etc. Il le fait, à l'aide de récepteurs qui se trouvent situés sur les terminaisons qui sont ici, dans ces régions-là. Et il est aussi bien mis en jeu lorsque les molécules volatiles sont dans la cavité nasale que lorsque les substances sapides, c'est-à-dire celles qui vont être dissoutes dans la salive, se trouvent dans la bouche. Dans les deux cas, il va fonctionner. Et il est plus compliqué que ça parce qu'en fait, c'est un nerf qui sert aussi à détecter les aliments par le toucher. Et c'est ce qui va donner aux aliments leur dimension de texture qui est très importante. Dimension de texture. Elle n'est pas forcément appelée goût, mais elle est quand même un élément essentiel du plaisir que l'on prend à manger certaines substances craquantes, croustillantes, onctueuses, etc. La température est fournie aussi par les fibres de ce nerf. Malheureusement, il y a aussi la douleur, en particulier parce qu'il innerve les dents. Et dans ces conditions, parfois, les rages de dents sont dues à des excitations un peu aberrantes du nerf, enfin aberrantes, protectrices en fait, du nerf trijumeau, des fibres de la douleur. Donc, vous voyez, c'est un ensemble très compliqué, finalement, qui va nous permettre d'appréhender les propriétés des aliments. Il faudrait ajouter quand même, parce que c'est important, l'ouïe est importante parce qu'elle nous permet d'apprécier une partie de ce qu'on appelle la texture, en particulier ce qui permet le craquant, le croustillant, etc. Mais aussi pour sentir la dureté d'un aliment, eh bien la sensibilité musculaire des muscles massétaires, des muscles qui manœuvrent la mâchoire est impliquée, et même la sensibilité des articulations. En fait, en cherchant bien, j'ai regardé un petit peu, en fait, je me suis aperçu que tous les sens et toutes les sensibilités, moins une, la proprioception, c'est-à-dire le sens de l'équilibre, sont impliquées dans l'appréciation sensorielle des aliments. Alors, on continue et on se pose maintenant une autre question. Au fond, qu'est-ce qu'on a appris ces derniers temps sur ces sujets-là? Je vais passer assez vite parce que j'ai quand même qu'une demi-heure. Mais je vais vous dire que parmi les choses nouvelles que l'on connaît, que l'on a appris ces derniers temps, il y a par exemple ces découvertes sur les récepteurs. Alors, c'est quoi? C'est très important parce que ce sont des petites particules, ce sont des protéines, pour ceux qui connaissent un petit peu la chimie des protéines, ce sont des protéines particulières qui vont être placées à la surface des cellules sensorielles et qui vont recevoir et faire des liaisons avec les molécules des choses sucrées, avec les molécules des arômes, avec les molécules de tout un ensemble de molécules, vont agir sur ces récepteurs. Eh bien, en fait, une découverte importante, ça a été la découverte des arômes, c'est-à-dire, en fait, la découverte des récepteurs des arômes, ce qui nous permet de sentir les odeurs et de sentir par la voie nasale les arômes des aliments. C'était une découverte qui a été faite en 1991 et qui a été si retentissante dans le milieu scientifique que les auteurs Linda Buck et Richard Axel des États-Unis ont eu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 2004 pour cette découverte-là. C'est donc important. Et en fait, les récepteurs de l'odorat, ce qu'ils ont trouvé d'assez remarquable, c'est qu'en fait, il y en a un très grand nombre. Ils sont très divers. Et s'ils sont très divers, cela permet de comprendre que nous soyons aussi experts dans la distinction, dans la discrimination d'arômes et d'odeurs d'ailleurs, d'arômes différents. Et cela est possible par conséquent parce qu'il y a de l'ordre de, enfin plusieurs centaines, disons que chez l'homme, c'est de l'ordre de 400 qui sont toujours en activité, et même parfois chez certains animaux, ça peut aller jusqu'à plus de 1000 types de récepteurs différents présents dans les terminaisons nerveuses du nez, des nerfs olfactifs. Mais, comme je disais, il y a quand même que 350 de ces gènes qui sont vraiment fonctionnels chez les humains. C'est-à-dire qu'on les trouve dans les gènes qui produisent ces récepteurs, qui commandent, qui permettent l'expression de ces récepteurs, sont en partie modifiés par des mutations. Il y en a que 350 qui marchent bien. Mais avec 350, ça peut faire encore quelque chose d'absolument énorme quant aux possibilités qu'ils nous donnent, ces récepteurs, de détecter et de distinguer, de discriminer des odeurs et donc des arômes. Comment on représente actuellement un récepteur des arômes? C'est l'un de ces 1000 types que l'on a découvert, disons. Et si vous voulez, on peut le représenter comme ça, c'est une sorte de... Bon, imaginez que la protéine, c'est une longue chaîne d'acides aminés qui se replie. Il se replie en particulier en faisant des tortillons, et il y en a ici 7. On dit que c'est une protéine à 7 passages dans la membrane, 7 domaines transmembranaires. Et c'est grâce à des liaisons que les petites molécules de l'odeur ou de l'arôme font avec les parties qui sont ici visibles, là, avec ces domaines transmembranaires, que le récepteur peut reconnaître la molécule. Et comme il y a beaucoup de récepteurs différents, cela permet de reconnaître beaucoup de molécules différentes. On a fait également, et c'est une découverte encore plus récente, on a trouvé des récepteurs également dans les cellules gustatives cette fois, celles qui permettent de déceler les saveurs. Ces récepteurs gustatifs, ils sont encore plus récents puisqu'on a commencé à les découvrir qu'à partir de l'année, des années 2000, enfin, disons à partir de 2000. Et on a trouvé ainsi des récepteurs du goût amer, des récepteurs du goût sucré et même d'un autre goût qui est le goût du glutamate qu'on appelle le goût umami. C'est un goût assez particulier aux cuisines asiatique, orientale, mais les Japonais aiment bien que l'on reconnaisse l'existence d'un goût qu'ils appellent umami, qui veut dire en fait délicieux. Et ils ont une certaine parenté, ces récepteurs des saveurs, ils ont une certaine parenté avec les récepteurs des odeurs, mais ils sont quand même moins nombreux. Alors, la question qui se pose maintenant, on a trouvé du sucré, du salé, de l'amer, l'umami, et qu'est-ce qu'il en est? N'y a-t-il pas un goût du gras? Mais ça, c'est une question qu'il faudra poser à Philippe Bénard, parce que c'est un de ceux qui est vraiment le plus compétent, puisqu'il travaille sur ce sujet, pour en parler. Ben, il y en a aussi un qui est assez particulier, un récepteur. Il y en a même deux que l'on connaisse un peu mieux, qui sont portés par ce nerf trijumeau dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sensible au principe actif du piment ou bien encore au principe de la moutarde. Ce récepteur, il est très particulier parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il avait la possibilité à la fois d'être activé par une température élevée, de l'ordre de 43 degrés, et aussi par des molécules, température molécules. Et ces molécules sont des molécules qui, précisément, déclenchent dans la bouche et dans la cavité buccale en général des sensations de douleur, de brûlure. Eh bien, c'est pas par hasard que ce récepteur de température élevée, qui est stimulé par des molécules comme le piment, fournit des sensations de brûlure lorsqu'il est excité par des molécules qui pourtant n'ont pas de température, ne sont pas chaudes elles-mêmes. Et puis de même, on a trouvé aussi un autre type de récepteur cette fois. Mais alors curieusement, ce récepteur, c'est un récepteur qui détecte normalement dans la bouche les températures fraîches. Bien curieusement, ce récepteur, il est sensible aussi à une molécule, le mentol, que vous connaissez, et le mentol qui est lui-même une molécule qui va nous donner une impression de température, comme si la température de la bouche était de l'ordre de 20 degrés. Donc on commence, vous voyez, un petit peu à saisir un peu mieux comment les récepteurs, qui sont des composants importants des systèmes sensoriels, font leur travail. Enfin, parmi les données que l'on peut considérer comme relativement nouvelles dans l'étude de ces questions de sens, eh bien, il y a maintenant les travaux qui sont réalisés grâce aux moyens de l'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, ce sont l'ensemble des méthodes qui permettent de regarder le cerveau, de voir des coupes informatiques du cerveau lorsqu'il travaille. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il est capable, le cerveau, de réagir. On voit comment il réagit à des stimulations sensorielles, à des goûts, à des saveurs. Et d'autre part, on peut voir que ce sont des images qui correspondent à des coupes virtuelles dans un cerveau humain, dans lesquelles on peut voir en particulier les zones rouges. Eh bien, ce sont des zones dans lesquelles qui s'activent lorsque des sujets sont stimulés par des odeurs, certaines plaisantes et d'autres moins plaisantes. Et si on avait le temps, je pourrais vous détailler tout cela, mais simplement pour vous dire que ce qui commence à faire avancer les choses actuellement, c'est la possibilité de voir dans le cerveau son fonctionnement lorsqu'il sent, lorsqu'il goûte et lorsqu'il ressent du plaisir à goûter et à manger. On peut voir, on peut tirer certaines conséquences de ce que l'on voit sur ces images. Le goût, tel que nous venons de l'évoquer, à quoi sert-il ? Pour le savoir, enfin, pour le comprendre un petit peu, il faut situer le goût, non pas tout seul, mais en rapport, bien sûr, avec l'ensemble des phénomènes qui sont relatifs à la prise d'aliments, au comportement alimentaire, mais aussi à la fonction de nutrition. C'est pour ça que c'est bien ce soir qu'il y ait, disons, des gens qui représentent ces deux domaines, du sensoriel et de la nutrition, pour vous parler. Toujours dans cette question « à quoi sert le goût ?», eh bien, on va faire une réponse très simple déjà. Le goût, c'est le gardien de l'entrée du tube digestif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il est placé juste effectivement à l'entrée du tube et que les informations qu'il capte par les différents sens que nous avons mentionnés, ces informations vont permettre au cerveau ou bien de donner un feu vert pour la poursuite de la prise alimentaire, de l'ingestion et y compris de l'introduction des aliments dans l'estomac. Et il permet aussi, éventuellement, si nécessaire, de bloquer, de donner au cerveau la possibilité d'arrêter le conseil, d'arrêter cette prise alimentaire au cas où un aliment, par exemple, se trouve avoir une saveur surprenante par rapport à celle qui est attendue. Donc, le goût, c'est pas une espèce de cerise sur le gâteau qui va nous faire un peu plaisir. Non, le goût, il a une fonction biologique, et cette fonction a une forte valeur adaptative, c'est-à-dire qu'elle permet à ceux qui savent bien l'utiliser, qui l'utilisent bien, d'avoir, en principe, de rester, en principe, en bonne santé. Alors, comment réalise-t-il sa fonction de contrôle? Eh bien, disons que, pour une part, sa fonction de contrôle, C'est une fonction qui consiste à apporter des informations. C'est vrai que quand on mange les aliments et quand on les sent en même temps, eh bien, on a tout un ensemble d'indications, y compris la nature de la substance, y compris son état, l'état de maturité si c'est un fruit, l'état de dégradation si c'est une protéine un petit peu ancienne, etc. On sait des choses, on sait, on a une connaissance, c'est cognitif, on sait des choses sur l'aliment. Mais c'est pas tout. En même temps, et c'est là que nous rejoignons enfin le plaisir, c'est que le goût a une dimension affective. Quand je dis qu'il a une dimension affective, c'est-à-dire qu'il agit sous la forme de plaisir, de déplaisir, voire de dégoût, en nous procurant ce qu'on appelle une émotion dans l'ordre de l'agréable ou du désagréable. Et ce plaisir-là, n'est pas non plus un plaisir détaché, un plaisir pur comme ça. C'est aussi, il nous apporte le goût également, une incitation à consommer. C'est-à-dire, il nous pousse en quelque sorte, ça peut nous interroger dans des situations comme celle que nous décrira peut-être Philippe Bénard tout à l'heure, de la situation de pléthore et de surconsommation qui est la nôtre, pléthore alimentaire et surconsommation. Cela peut nous interroger de savoir que le goût incite effectivement à manger. Mais il ne fait pas que ça, et nous allons le voir bientôt. De quoi est-ce que dépend cette valeur affective du goût? De quoi dépend le plaisir que l'on prend à manger d'un aliment? D'abord, souvenons-nous bien que le goût n'est pas simplement dans l'aliment. On sait très bien que ça n'a pas de sens de dire « ça c'est un aliment qui a bon goût, ça c'est un aliment qui a mauvais goût ». Il a bon goût pour moi, il a mauvais goût pour moi, mais c'est pas forcément pour cela qu'il a mauvais goût pour tout le monde. Alors, cette valeur de plaisir ou de déplaisir, eh bien elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend tout d'abord de ce qu'on pourrait appeler des prédispositions innées. C'est-à-dire, par exemple, prenons le cas du sucré, le goût sucré. Le goût sucré, il y a peu de gens qui résistent vraiment au goût sucré, mais il y en a qui sont plus ou moins orientés vers cette saveur. Mais le goût sucré, il tient sa valeur de plaisir largement de la construction même des récepteurs et de leur lien avec le cerveau. C'est-à-dire qu'il est inné. Pour dire les choses un petit peu rapidement. Il est probablement inné. Voilà. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'apprendre à aimer le sucré. D'ailleurs, en fait, le bébé, à la naissance, son premier biberon, s'il est sucré, il l'acceptera. Par contre, s'il est amer, il ne l'acceptera pas. Il y a aussi une prédisposition innée à la valeur négative de la mère. Le bon, c'est le sucré, le mauvais, c'est la mer, et ça, il y a une prédisposition génétique à ça. Alors, on n'est pas tous pareils sur ce plan-là, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui goûtaient la mer mieux que d'autres qui ne sentaient pas beaucoup, et ça fait beaucoup de différence entre les individus selon leur sensibilité. C'est une question qui a été beaucoup étudiée. Mais le goût, c'est pas simplement quelque chose qui est inné. C'est aussi quelque chose qui dépend de ce qu'on appelle l'apprentissage, la mémoire et les expériences alimentaires qu'on a faites dans le passé, mais on va y revenir dans un instant. Et aussi, ça dépend de l'état nutritionnel de l'organisme. Au fond, ça dépend aussi du besoin que l'on a des aliments. Le goût dépend du besoin qu'on a d'eux. Les prédispositions innées, je viens d'en parler, je ne vais pas insister beaucoup. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le goût sucré, qui est en principe préféré, qui est aimé par beaucoup de gens, y compris les très jeunes, il a quelque chose tout de même, on peut voir pourquoi c'est ainsi. Dans l'évolution, l'évolution semble avoir favorisé ce goût sucré pour en faire un goût plaisant. Mais si on regarde bien, c'est que les molécules qui, dans la nature, ont un goût sucré, sont aussi des molécules qui sont riches en énergie. Et on voit que le goût sucré est finalement destiné à nous permettre de nous orienter, d'augmenter notre prise alimentaire de nourritures qui sont riches en énergie grâce à leur goût sucré. Ça aussi, ça pose un problème, bien sûr, parce que si nous suivons trop cette pente naturelle d'aimer le goût sucré, peut-être aurons-nous des problèmes avec la consommation de nourriture riche en énergie. la valence négative du goût amer, eh bien, ça peut s'expliquer aussi parce que beaucoup de ces substances goût amer sont des substances qui, dans la nature, sont produites par des végétaux. Et il y a parmi elles, notamment, des molécules qui sont potentiellement toxiques. Je pense, par exemple, aux alcaloïdes. Donc, c'est peut-être bien pour l'évolution d'avoir prévu cette alarme que représente le goût amer. Et j'ajouterai finalement, vous savez tous aussi, parce que certains d'entre vous ont peut-être consommé des boissons amères lorsqu'elles étaient un petit peu sucrées, et c'est pas si mauvais que ça, une suze ou une gentiane. Eh bien, c'est vrai que l'expérience que l'on a de ces substances peut modifier un peu la prédisposition innée qu'on a à les refuser ou au contraire à les aimer très fort. Il y a des gens qui apprennent à aimer la mer et puis il y en a d'autres qui apprennent aussi à ne pas manger trop sucré. Il y a une possibilité d'agir sur ces phénomènes innés. Alors, l'apprentissage. Si on admet que le goût dépend, la valence, qu'on appelle la valeur affective, la valeur hédonique, le plaisir que l'on prend à goûter, si cela dépend des expériences que l'on a de l'aliment, de quelle sorte d'expérience s'agit-il? Eh bien, tout d'abord, le simple fait d'être exposé régulièrement à l'aliment, par exemple, ça vaut tout à fait pour les enfants, ça va modifier la valence hédonique de cet aliment, du goût de cet aliment. Aussi quelque chose qui va déclencher au départ un rejet, en étant plus familier, va devenir progressivement acceptable, voire être aimé, si c'est confirmé, par les expériences successives. Il faut en tirer la conséquence que pour faire en sorte que les enfants acceptent des nourritures assez variées, ben, il faut les mettre en présence de ces nourritures, mais pas forcément les forcer à en manger, attendre que ça vienne, et peut-être que dans ces conditions-là, ça se produira. C'est ainsi d'ailleurs que on remarque que se fait l'éducation dans les cultures qui consomment du piment, mais c'est comme ça qu'on apprend aux enfants à consommer du piment. On les force pas, on les laisse en présence, et quand les adultes en mangent, quand les enfants plus âgés en mangent, mais les plus petits se mettent à en manger, alors ça c'est pour leur bien ou pas, ça c'est le nutritionniste qui vous le dira si vous lui posez la question. Mais il y a un autre mot qui est important, c'est le terme de conditionnement alimentaire. Et là, ça commence à devenir, à nous mettre sur la piste encore plus, peut-être, du rôle du goût. D'abord, il faut savoir que lorsque l'on consomme un aliment avec les stimulations sensorielles qu'il émet, en particulier olfactives, gustatives, etc., le cerveau conserve pendant un certain temps une sorte de stock de ces sensations reçues pendant la prise d'aliments. D'accord? Il les conserve. Il les met en réserve. Il les met en réserve au moins pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va être important de faire le rapprochement par le cerveau de ce qui va se passer après le repas. Si on va être bien ou pas bien, notamment si le tube digestif envoie au cerveau des messages internes de rassasiement correct. Dans ces conditions, si la prise alimentaire est suivie de conséquences positives, on va les appeler positives pour ne pas trop passer de temps là-dessus, à ce moment-là, un lien se fait entre ces conséquences positives et les stimulations sensorielles, les messages sensoriels qui ont été mis en réserve. Et ainsi se crée une association, un conditionnement. Et en fait, il y a deux sortes de conditionnement. Il y a un conditionnement qu'on peut qualifier de négatif, d'aversif. Là, c'est le plus efficace encore de tous. Si vous consommez un aliment qui, par exemple, contient une toxine qui n'est pas du tout perceptible en elle-même par le goût. Et si vous êtes malade quelques heures plus tard, vous pouvez contracter une aversion pour cet aliment, et c'est possible parce qu'une association a pu être faite entre les conséquences et le stock le souvenir inconscient, en fait, largement inconscient, de la qualité des aliments. Mais dans beaucoup de cas, heureusement, c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a des conditionnements positifs. Ça a été surtout étudié, ça vraiment, que chez le rat. Mais on a des techniques astucieuses pour montrer, lorsqu'un animal est nourri d'une nourriture qui est riche en énergie et qui n'est pas toxique par ailleurs, après un certain nombre de prises, eh bien, il consommera l'aliment qui a les caractéristiques sensorielles qui ont été suivies d'un effet positif. D'accord? Et ça, c'est moins rapide. Ça se passe pas en un coup, ça se passe en plusieurs séances. Mais on sait aussi que c'est tout à fait possible chez les humains, puisque si on donne, par exemple, une expérience qui a été faite avec des boissons qui sont odorisées d'une certaine façon et qui ont aussi un contenu calorique très différent, eh bien, on peut montrer facilement que les enfants s'attachent rapidement à préférer un aliment, une boisson qui est riche en calories, s'ils peuvent la repérer à son odeur, par exemple, et pas à son goût. On s'est arrangé pour qu'elle ait le même goût que l'autre. Dans ces conditions, on sait donc par conséquent que le goût est un élément permettant, par un conditionnement, d'attribuer une valeur positive ou une valeur négative à l'aliment. C'est donc très important. Et enfin, il y a une chose qui est importante aussi. Un aliment peut faire plaisir, mais pas forcément toujours. Un aliment peut faire plaisir lorsqu'on a faim ou de l'appétit, et ne plus faire tellement plaisir comme lorsqu'on est rassasié. Eh bien, ce changement du plaisir apporté par le goût, eh bien, c'est un facteur qui contrôle la prise alimentaire, c'est-à-dire qui contrôle le volume ou le poids du repas. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible par plusieurs mécanismes, mais j'en ai mis deux ici. Il y a un mécanisme qu'on appelle, vaudrait mieux l'appeler le rassasiement sensoriel spécifique. Qu'est-ce que c'est que le rassasiement sensoriel spécifique? Eh bien, on peut faire facilement l'expérience quand on a consommé, par exemple, dans un repas qui comprend plusieurs plats, n'est-ce pas? On va consommer d'un plat, et puis on va dire non merci, ça va, ça suffit. On arrête de consommer. Mais ça m'empêchera pas que l'on aura la possibilité de consommer un deuxième plat qui aura des caractéristiques sensorielles différentes, qui aura pas le même goût. Autrement dit, au fur et à mesure que l'on consomme un aliment, progressivement, sa valeur de plaisir décroît. Et au bout du compte, elle décroît assez pour que l'on passe éventuellement à un autre plat, si un autre plat est disponible. On sait bien d'ailleurs que dans des régimes ainsi de libre disposition de multiples plats, de multiples mets, eh bien, il y a une surconsommation et même les rats se font prendre, au moins pendant un certain temps, à cette pratique de plats multiples. Alors, cette sensorialité, ce rassasiement sensoriel spécifique, en fait, il se produit en réalité en raison d'une sorte de conjonction, de rencontre entre les signaux qui sont produits par les aliments, mais aussi les signaux internes que renvoie l'estomac au cerveau. Au fur et à mesure que l'estomac contient de plus en plus de matières nutritives, les sensations qu'il procure et surtout les informations même inconscientes qu'il donne au cerveau sont associées au plaisir que l'on prend à manger l'aliment et progressivement, en fait, ce plaisir va décroître pendant la prise d'aliments. Ce qui fait que une partie du rassasiement est donc due, en fait, aux modifications qui concernent le goût. Et puis, il y a une autre dimension également qu'on appelle la satiété conditionnée. En fait, vous savez, on mange des aliments d'une façon qui ne peut pas être arrêtée par les conséquences vraiment nutritives de la prise d'aliments. Parce que ces conséquences nutritives, elles ne vont apparaître qu'un peu plus tard, lorsque l'aliment aura traversé, déjà sera entré dans le duodénum, puis le reste du tube digestif. C'est à ce moment-là que des signaux vont pouvoir monter au cerveau et dire, eh bien, il y a assez de substances qui ont été consommées. Mais c'est trop tard. En fait, le repas, il est pris. Il est déjà pris. Autrement dit, il y a une sorte de dimensionnement du repas qui est fondé sur l'appréciation de la valeur nutritive et énergétique des aliments. Et ceci est le résultat aussi d'une sorte d'apprentissage. On apprend, par exemple, lorsqu'on mange du chocolat, à ne pas en mettre autant que si on mange des pommes de terre, par exemple. Parce que, en fait, on le sait évidemment on le sait de façon cognitive, mais aussi on a un sentiment qui dit, et ça c'est du domaine de l'apprentissage inconscient, qui dit que ce type d'aliment avec ses propriétés sensorielles, eh bien il est riche, il ne faut pas en prendre trop. Donc le plaisir alimentaire est en partie fonction de l'état de besoin de l'organisme, et même dans certaines conditions, il évolue de façon à préparer, il évolue avant que l'organisme lui-même ne soit tout à fait informé par les aliments eux-mêmes, par les signaux qui viennent de l'intérieur du tube digestif. L'extérieur, finalement, prédit ce que va donner plus tard l'intérieur. Et c'est là que le goût est important. Bien sûr, tout ça peut se dérégler. Les questions qui sont actuellement à l'étude, c'est est-ce qu'il y a moyen de favoriser le rassasiement sensoriel spécifique de façon à être amené à manger, à consommer moins? Est-ce qu'il y a, dans quelles conditions est-ce que cela peut être fait? Est-ce que les gros mangeurs ont des caractéristiques différentes sur ce plan-là par rapport aux petits mangeurs, par rapport aux gens qui ont un poids normal? Tout cela est quelque chose qui est à l'étude actuellement. C'est simplement pour indiquer, vous voyez, quand je parle de signaux intérieurs, internes à l'organisme, eh bien, c'est par exemple les signaux qui viennent des signaux mécaniques de l'estomac, mais aussi des signaux chimiques qui viennent du vague ou de la veine porte hépatique. Et c'est des substances libérées. C'est quelque chose de très compliqué, mais moi, ce que je vous ai parlé, en fait, c'est de choses qui viennent, par exemple, par ces deux nerfs-là, qui sont des nerfs gustatifs, et qui, d'ailleurs, vont se rencontrer avec ces signaux internes, mais ça risque plutôt de vous compliquer la perception des choses que de vous l'arranger, donc je ne commenterai pas davantage.
Vous venez d'entendre André Hollet sur la relation entre cerveau et goût. Poursuivons par la communication de Philippe Bénard, nutritionniste, sur le goût, ses plaisirs et ses conséquences sur notre régime alimentaire. Dans nos sociétés occidentales, les aliments que nous affectionnons particulièrement sont souvent trop riches en graisses saturées. Pensez aux chips, frites, barres chocolatées et autres crèmes glacées. Sur 270 millions d'Américains, par exemple, plus de 100 millions sont obèses et ils pourraient représenter 75% de la population à l'horizon 2030. En France, 9% de la population est touchée par l'obésité et les médecins s'inquiètent notamment de la montée de l'obésité infantile passée de 5% en 1995 à 16% en 2006. Philippe Bénard nous donne les détails d'un repas équilibré en fonction de vos besoins quotidiens.
En fait, là, ce qu'on va essayer de voir ensemble, ça va être l'évolution de l'obésité aux États-Unis. Alors, pourquoi les États-Unis? C'est pas parce qu'ils mangent que du McDonald's, hein. C'est parce que nos collègues américains, ils ont une chance extraordinaire par rapport à nous. C'est qu'ils ont des moyens, à partir du moment où ils montent des bons dossiers scientifiques, et ils ont la possibilité, entre autres, de faire d'énormes statistiques. Et donc là, c'est pour ça qu'on a fait référence à ces résultats américains. Alors, en fait, ça, on va essayer de parler d'obésité. Pour ça, il faut que je définisse au moins une chose au départ. C'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Alors, l'indice de masse corporelle, c'est quelque chose qui est très simple. On connaît tous son poids, on connaît tous sa taille. Eh bien, c'est le poids en kilos, sortez vos calculettes, hein. Le poids en kilos sur la taille au carré. D'accord? Et alors, donc là, on va avoir un chiffre derrière. Alors, si jamais le chiffre est inférieur à 18, on est dans un état de maigreur. Ok? Si jamais on est entre 18 et 25, on est dans un état de normalité. Entre 26 et 29, on est dans un état de surpoids. Au-delà de 29, on est en état d'obésité. Donc là, ce que je vais vous présenter, ça va être les résultats faits aux États-Unis, état par état, d'accord, sur les adultes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30. C'est-à-dire, c'est vraiment des obèses. Et ça, c'est un langage international, tout le monde adopte ceci. Alors là, on va avoir une échelle de couleurs. Vous allez avoir les États-Unis qui vont apparaître, hein, avec les États, avec une échelle de couleurs. Donc, lorsque ça va être blanc, on va avoir aucune donnée statistique. Lorsqu'on va être un bleu clair, on va être à 10% d'obésité. Un bleu plus soutenu, 15 à 14. Et puis, plus on va aller vers les couleurs chaudes, plus on va avoir un pourcentage élevé d'obésité. Allez, on y va, on commence. 2004, alors vous voyez qu'au départ, hein, il y a 20 ans, on était dans une situation où on était complètement dans le bleu clair. Et là, on est dans une situation où on est vraiment dans les couleurs chaudes. Il faut savoir qu'actuellement, compte tenu de l'augmentation de l'obésité chez les adultes, hein, sur à peu près 270 millions d'Américains, il y a plus de 100 millions d'Américains qui sont obèses. Donc là, si jamais on fait une projection, hein, de l'évolution de l'obésité en fonction des années. Alors là, on est actuellement à cet endroit-là. On a été, les statisticiens ont poussé ça jusqu'à 2030, eh bien on s'aperçoit que en ordonnée, là, vous allez avoir le pourcentage de population avec un indice de masse corporelle supérieur à 30, donc obèse. Eh bien on s'aperçoit que les États-Unis, à l'horizon 2030, va avoir, si jamais on continue avec la même pente, à peu près 75% de la population qui est obèse. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Ce qui est intéressant à côté de ça, c'est qu'on s'aperçoit que un pays en voie d'émergence comme le Brésil, hein, eh bien est aussi complètement impliqué dans le système. On s'aperçoit qu'il y a une pente qui existe. La seule chose, c'est qu'il y a un décalage dans le temps. Donc ça, c'est pour faire passer une notion, c'est que ce problème d'obésité, eh bien, c'est un problème qui est un problème mondial, c'est un problème de santé publique, hein, qui est extrêmement important, et on parle pour cela d'épidémie, même si dans l'idée des gens, l'épidémie, c'est quelque chose qui se transmet. Ben là, c'est quelque chose qui se transmet pas. Si jamais vous regardez la définition du petit Robert sur l'épidémie, eh bien, vous verrez que c'est un phénomène qui touche une très large partie de la population. Il n'y a pas forcément la notion de transmission. Donc, il n'y a pas que les Américains, comme je vous disais, il y a aussi les Français. Hein. Donc, il faut tout de même regarder un petit peu dans son assiette. Donc là, c'est une étude qui s'appelle OBEPI. Hein, cette étude, c'est OBEPI, c'est pour obésité épidémiologie. Hein, donc, c'est une étude épidémiologique qui a été financée par l'INSERM, par l'Institut Roche et puis par la SOFRES. Donc là, on a exactement le même cas. IMC supérieur à 30, c'est-à-dire cas d'obésité franche, hein, il n'y a pas de problème, avec un code couleur. La seule chose, c'est que là, les couleurs les plus chaudes sont beaucoup plus basses, sont deux fois plus basses que celles qu'on a pu observer précédemment aux États-Unis. On est à 12%. Donc ça, c'était l'État en 97 et maintenant l'État en 2000. Alors, donc on continue à avoir des statistiques, ça évolue. Donc, vous voyez, il n'y a pas uniquement une spécificité américaine, hein, ou une non-spécificité française. Hein. On est vraiment dans le même bateau. Alors ça, c'était chez les adultes. Alors qu'en est-il ? Alors ça, c'est les proportions d'obèses adultes. Là, c'est le source, c'est l'OCDE 2003. Bon, là, il y a un certain nombre de pays. Là, on s'aperçoit que les Américains vraiment détiennent pour l'instant le pompon. Mais en dehors de ça, bon, la France est située en rouge. Vous voyez, là, on est à peu près à 9% de la population adulte, alors qu'on est à plus de 30% hein, de la population adulte aux États-Unis. Alors ça, c'est vrai non seulement chez les adultes, mais c'est vrai aussi chez les enfants. Alors là, vous allez avoir toujours pareil, c'est le pourcentage d'enfants obèses. Alors là, on a utilisé un système de comparaison parce que chaque pays avait son système d'évaluation qui était différent. De telle sorte, faire des comparaisons statistiques, c'était difficile. Donc, on a ramené tout. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ça, c'est les chercheurs qui ont fait ça. Hein, ils ont ramené toutes les données aux données françaises. Donc, comme ça, on peut comparer. Et donc, on voit ce qui se passait entre 75 et 95. Et bon, il n'y a pas photo. Il y a une augmentation extrêmement importante de l'obésité infantile. Par exemple, dans le cas de la France, on passe de 5% à plus de 12% en 95. Le phénomène continue. Hein, les dernières statistiques montrent que en France actuellement, on est aux alentours de 16% des enfants hein, qui sont vraiment en surcharge pondérale ou sont obèses. Alors tout ça, je vous ai fait une introduction un peu punchy hein, sur l'obésité. Est-ce que c'est grave, docteur ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors là, il y a deux manières d'appréhender les choses qui sont complémentaires, qui sont très très importantes. Il y a le côté image de soi. Alors c'est sûr, dans une société telle que la nôtre, où l'image de soi ressemble plus à du Modigliani qu'à du Botero, hein, eh bien, la gestion est assez difficile à faire. Alors ça, c'est vrai pour les dames, hein, mais c'est de plus en plus vrai pour les messieurs. Hein. Lorsqu'on regarde maintenant, il y a des journaux hein, masculins, hein, où on voit des super athlètes avec les tablettes de chocolat, et puis quand on regarde son bide, on se dit, bah, dis donc, il y a encore du travail à faire. Donc... Et en plus, là, ça tombe pile poil parce qu'on est à la période, on est au mois de juin, c'est la période où on sort les maillots de bain des armoires et on s'aperçoit que pendant l'hiver, ils ont réduit de taille. On n'arrive plus à rentrer dedans. C'est tout même gênant. Donc, il y a ce problème d'image. Ce problème d'image, vous voyez, ça évolue dans le temps parce que là, au temps du Néandertal, néolithique, ou je ne sais pas quelle période exactement, eh bien, la représentation de la femme, c'était une représentation de femme très charnue avec des attributs qui contribue à la vie, hein, c'est-à-dire une poitrine abondante avec des hanches très amples. Hein, donc, comme quoi les choses évoluent. Et puis, on n'a qu'à regarder plus près de ça, hein, les tableaux de Renoir. Eh bien, on s'aperçoit que les baigneuses, elles sont plutôt pulpeuses. Ça, c'est une première chose, c'est le côté psychologique. Alors, moi, je suis pas très doué en psycho, donc je vais me rabattre plutôt sur le côté biologie. Alors, les complications liées à l'obésité, eh bien, elles sont multiples. Alors, la première chose, et ça, c'est toujours l'étude OBEPI, on a toujours ce code couleur qu'on avait tout à l'heure. Alors là, en bleu clair, c'est la population totale française. En vert clair, c'est les gens qui sont considérés comme ayant un poids normal. Ceux qui sont en ocre, ce sont ceux qui sont en surpoids. Et ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont obèses. Eh bien, on s'aperçoit qu'en ce qui concerne l'hypertension, eh bien, il n'y a pas photo. Lorsqu'on regarde par rapport à la population mince, en vert, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 4 fois plus de chances de faire de l'hypertension lorsqu'on est obèse. Hypertension, c'est pas anodin. Ça veut dire les risques de rupture vasculaire cérébrale, etc. Donc, c'est vraiment très gênant. Lorsqu'on regarde un autre paramètre, qui est les dyslipidémies. Bon, par exemple, l'hypercholestérolémie. Vous savez que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. On a exactement le même profil. Et dernière chose, lorsqu'on parle de diabète de type 2, alors le diabète de type 2, vous savez, c'est un diabète qui est dû à l'obésité, hein, c'est pas dû à un défaut de sécrétion d'insuline. Vous savez que l'insuline, c'est une hormone qui fait rentrer le glucose dans les cellules, d'accord, pour les faire fonctionner. Eh bien, le diabète de type 2, c'est le fait que l'insuline ne peut pas faire son boulot, c'est-à-dire qu'elle est, elle est produite, mais il y a une résistance à l'insuline, on n'arrive pas à faire rentrer le glucose dans le sang. Alors ça, c'est très gênant, parce que dans les deux cas, le diabète de type 1, c'est-à-dire celui insulino-dépendant, et le diabète de type 2, l'hyperglycémie chronique, à court terme, ça fait rien, mais en chronique, ça fait vieillir les tissus, et entre autres, ça va entraîner des atteintes vasculaires multiples, et une des caractéristiques, c'est par exemple une atteinte au niveau de la rétine, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, hein, c'est-à-dire que les petits vaisseaux qui irriguent la rétine se bouchent et les gens deviennent aveugles. Donc ça, c'est un des cas, mais il y a des choses beaucoup plus dramatiques que ça, donc c'est extrêmement grave, ce diabète. Et ce diabète de type 2, lui, c'est le diabète lié à l'obésité. Alors, comment on arrive à le soigner? Eh bien, c'est pas en injectant de l'insuline, puisqu'on le produit, mais elle résiste. Eh bien, c'est en faisant remaigrir les gens. Alors ça, c'était normalement appelé aussi le diabète de l'âge adulte. Et en fait, actuellement, avec l'épidémie d'obésité chez les enfants, on s'aperçoit qu'il y a apparition de diabète de type 2 chez les enfants, alors que c'était quelque chose qui était impensable il y a encore 20 ans. Alors, en fait, comment peut-on expliquer tout ce problème d'obésité? Alors, si j'avais la réponse ce soir, je serais très très content et je pense que, bon, je serais très très célèbre. En fait, les réponses sont extrêmement complexes, c'est multiparamétrique, donc on va essayer d'analyser les choses. J'ai posé quelques questions comme ça. Alors, une des choses qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. Alors, c'est quoi la transition nutritionnelle? On voit ici, hein, qu'il y a des études qui ont été faites depuis 1780 en France, hein. 1780 et jusqu'à l'an 2000, et on a regardé comment étaient composés les repas. Hein, c'est-à-dire les habitudes globales de la population française. Hein, c'est pas Monsieur X ou Madame Y, hein, c'est la population globale. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une modification très importante de la composition en nutriments énergétiques. Tout à l'heure, on va reparler de ce que sont les nutriments. Certains nutriments sont énergétiques, c'est les lipides, glucides et les protéines. D'accord? Et donc là, on s'aperçoit que les glucides sont très majoritaires pendant toute une période de cette histoire et deviennent progressivement consommés d'une manière plus modeste au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'an 2000. En ce qui concerne les protéines, on bouge pas trop. En revanche, bien, comme c'est des pourcentages, s'il y en a un qui dégringole, il y a quelque chose qui va augmenter, classique, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être les lipides qui vont augmenter énormément. Les glucides, c'était quoi? Eh bien, c'était, en fait essentiellement des céréales, des pommes de terre, etc. Ce qu'on appelle des féculents, qui sont plutôt des sucres, qui sont des sucres lents. D'accord? C'est-à-dire des sucres à diffusion lente, ça arrive lentement au niveau sanguin, et ça c'est meilleur pour la santé, ça évite les pics d'hyperglycémie, hein, qui sont pas très bons. Pour les lipides, eh bien ça va être pas forcément les lipides visibles qu'on va consommer. C'est quoi les lipides visibles? Ça va être l'huile, hein, qu'on va mettre dans nos sauces, ça va être le beurre, ça va être la crème. Ça va être surtout les consommations de produits carnés. Alors, c'est ce qu'on appelle les graisses invisibles. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va manger un beefsteak, même s'il n'est pas persillé, et Dieu sait si lorsqu'il est persillé, comment c'est meilleur, il n'y a pas de problème, hein, eh bien, il y a tout de même de la graisse dedans. Les charcuteries, c'est évident, il y a de la graisse aussi. Donc là, ça va être toutes ces consommations, même dans le poisson, dans les volailles, etc., toutes ces consommations-là qui font qu'on va avoir plus de lipides qui vont apparaître. D'accord ? Alors, lorsqu'on regarde maintenant l'évolution des calories, toujours sur une période très longue, eh bien, on s'aperçoit que on va avoir une évolution qui va être avec un pic aux alentours de 1920, et puis une décroissance progressive. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, cette décroissance est bien plus importante que ce qui est indiqué ici, puisqu'on est chez l'homme adulte en moyenne en France aux alentours de 2400 kilocalories, alors qu'au début du siècle on était à 3005. C'est dû tout simplement à un changement d'environnement, c'est-à-dire que c'est la mécanisation, c'est la présence de voitures, c'est le fait qu'on a un chauffage. Je vous garantis que lorsque vous passez un hiver, surtout dans le Jura, et sans chauffer, eh bien vous allez brûler des calories, hein, pour essayer de maintenir votre température. C'est quoi cette transition nutritionnelle ? Eh bien, elle va être caractérisée par un certain nombre de paramètres. La première chose, c'est qu'on est passé, depuis peu, d'un régime monotone, hein, qui va être riche en fibres, qui va être pauvre en graisse, à un régime très varié, qui va être pauvre en fibres, qui va être riche en graisse et riche en sucre ajouté. Alors le sucre ajouté, hein, ça va être le sucre blanc, hein, qu'on peut retrouver un petit peu partout, hein, soit qu'on rajoute à la maison, soit qui est rajouté directement par les industriels, hein, dans leurs produits. La deuxième chose, c'est que on est passé d'une période où l'activité physique était importante à une période où l'activité physique est restreinte. Deux paramètres importants. La conséquence de ça, eh bien, il va y avoir des conséquences très positives. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un extraordinaire allongement de l'espérance de vie. Il faut savoir qu'en France, hein, chaque année, on gagne un trimestre d'espérance de vie. C'est tout de même énorme. Ce qui va poser des problèmes très importants par la suite que notre présent gouvernement va prendre à bras le corps, je pense. Ça risque de faire mal pour les gens qui ne sont pas encore à la retraite. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est une chose très importante, hein. Donc c'est qu'il y a une espérance de vie qui est augmentée. Mais il y a une chose aussi qu'on commence à s'apercevoir, c'est que cette espérance de vie qui était assez constante commence à dégringoler. Et notamment, on s'aperçoit que on commence à avoir des statistiques récentes qui montrent que des enfants qui sont obèses très tôt vont avoir une espérance de vie qui va diminuer. C'est-à-dire que ça peut remettre en question ce problème d'obésité, cette croissance de l'espérance de vie à l'avenir. Et en fait, la dernière chose, c'est que les caractéristiques que je vous ai montrées, vous avez vu, ça s'est étendu sur une période extrêmement longue. Sur le vieux continent. Eh bien, actuellement, du fait de la mécanisation, des échanges, de la mondialisation, ce phénomène-là se passe à toute vitesse dans les pays en voie de développement. C'est-à-dire que le problème de l'obésité se retrouve dans les pays en voie de développement, avec, bien sûr, un niveau beaucoup plus bas que celui des pays développés, mais qui commence à galoper. Et là, on se trouve dans des situations assez paradoxales où on va avoir des populations qui vont à la fois souffrir pour certaines de malnutrition et d'autres qui vont souffrir d'obésité. On s'aperçoit qu'il y a des phénomènes d'obésité qui frappent, notamment en France, les populations les plus défavorisées. Et ça, c'est vraiment très statistique. Et là, en fait, il y a une question qui peut être posée. La première question qui dit, bah, c'est dû au niveau d'éducation, généralement. Et ça, il y a des statistiques qui montrent aussi qu'il y a des choix alimentaires qui sont différents en fonction du niveau d'éducation, etc. Est-ce que c'est dû à un niveau d'éducation? Est-ce que c'est dû à des contraintes financières? Alors là, je vous donne déjà une petite clé là-dessus. C'est qu'on s'aperçoit que là, c'est des statistiques qui remontent à 97. C'est pour ça que c'est en francs encore. Que plus on va avoir un revenu élevé en francs, eh bien, plus on va consommer des produits tels que des produits frais, des légumes frais, de la viande, et alors que bon, tout ceci va être réduit à portions congrues lorsqu'on va être dans les conditions difficiles. Ça veut dire que ce que l'on va avoir, c'est qu'on risque d'avoir, c'est pas ce qu'on risque, on a deux types de populations. Il existe des populations en situation précaire qui vont consommer énormément de produits ayant une très haute densité énergétique, parce que ce sont les produits les moins chers, et qui vont avoir une très faible densité nutritionnelle. Je vais revenir sur ce concept tout à l'heure. Et donc derrière, il va y avoir des conséquences santé assez importantes. Alors, parmi les hypothèses possibles, là en fait, c'est les pistes sur l'obésité. Hein, on a vu que bon, il y avait peut-être des contraintes financières. Il y a des pistes génétique. Les gènes économes, c'est quoi les gènes économes? Eh bien, en fait, l'homme, ça fait relativement peu de temps qu'il est à satiété alimentaire. Pendant à peu près les 4 millions d'années de l'existence de l'espèce humaine, eh bien, pendant toute cette période-là, l'homme a toujours couru après les calories. Et donc, il a toujours lutté hein, dans un environnement qui était un environnement de précarité alimentaire. Et de ce fait-là, il y a des sélections qui se font au cours du temps, c'est-à-dire que les gens qui vont être porteurs de certaines mutations génétiques, qui sont des mutations spontanées, on est tous des mutants, hein, ici, on a tous dans notre génome qui contient à peu près 30 000 gènes, dont on ne sait pas ce que la moitié, ce dont à quoi ils servent d'ailleurs, donc il y a du travail à faire hein, pour les chercheurs, eh bien on est tous porteurs de mutations. Il y a certaines mutations qui vont avoir des effets bénéfiques, notamment sur la survie en cas de précarité. Et donc là je vais vous donner un exemple, qui est un exemple très connu, celui des Indiens Pima. Alors ces fameux Indiens Pima, ils vivaient ici dans l'Arizona. L'Arizona c'est cet état-là qui est juste à la frontière avec le Mexique. Et en fait c'était des Indiens qui étaient une peuplade, une tribu de chasseurs-cueilleurs. Et vous savez, comme dans les bons westerns, eh bien, ils attendaient le bison hein, pour manger. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, justement, de lire un certain nombre de romans qui sont des fois des romans très bien, pratiquement ethnographiques. Hein. Je pense, par exemple, à Mille Femmes Blanches. Il y a des romans qui ont donné lieu à des films célèbres, hein, comme Little Big Man ou Danse avec les loups, où il y a, lorsque vous les lisez, eh bien, tous les comportements alimentaires qui sont vraiment très, très bien décrits. Et notamment, si vous avez pu lire ou voir Danse avec les loups, hein, qui est un magnifique film, eh bien, vous voyez que au moment où il y a la chasse, eh bien, après la chasse, eh bien, c'est bombance. C'est-à-dire qu'on va manger, tout le monde a son morceau de bison, tout le monde invite tout le monde, on bouffe pendant 3 jours, 4 jours sans arrêt, à satiété. Hein, et au-delà de la satiété. Alors, le but, c'est quoi? Eh bien, en fait, le but, c'est d'arriver à stocker de l'énergie, hein, le mieux possible pour pouvoir survivre à la période de l'après-bison. Et la période de l'après-bison sera vraiment très très dure. Et donc c'est ceux qui vont avoir les gènes les plus performants au niveau du stockage de l'énergie, c'est-à-dire du stockage des lipides, qui vont survivre. Et donc dans cette tribu Pima, eh bien, ils ont vécu en autarcie pendant des siècles et des siècles, et ils ont souffert énormément avec l'arrivée de l'homme blanc, qui s'est bien sûr empressé de les massacrer amplement. Et donc, ils ont souffert d'une famine pendant à peu près presque 70 ans, hein, de 1850 à 1920. Alors, il y a une partie de cette tribu qui, en fait, a migré, a passé la frontière, hein, a passé le Rio Grande, et passé de s'installer de l'autre côté au Mexique. Et celle-ci s'est mise à s'implanter sur place, sont devenus cultivateurs. Et lorsqu'on regarde cette population actuellement, ce sont des gens qui bon, présentent un petit peu d'obésité, comme il y en a partout hein, dans les populations, mais ce n'est pas dramatique. L'autre partie eh bien, a été enfermée dans des réserves, avec alimentation en abondance. Et il y a dans cette population-là plus de 80% des adultes qui sont obèses. C'est la population mondiale où il y a plus d'obésité. Donc, c'est une population expérimentale extrêmement intéressante pour les chercheurs qui sont mis à chercher des mutations. Et là, il y a une mutation que je vous présente. C'est une protéine que j'aime bien parce que j'ai travaillé pendant un bout de temps dessus. C'est une protéine, comme vous voyez. Alors, la protéine, c'est cette chose un peu bizarre, là. C'est spaghetti. En fait, c'est une protéine qui est constituée de 10 feuillets qui sont en position orthogonale, comme ça. Ça fait une poche et dedans rentre un ou plusieurs acides gras. D'accord? Et cette protéine-là, elle existe au niveau intestinal, elle permet de faire entrer les lipides vers le sang. D'accord? Eh bien, il souffre d'une mutation au niveau de la porte d'entrée de les acides gras, de ces acides gras ici. Une mutation seulement, d'une seule base, qui a entraîné une mutation d'un acide aminé, qui a fait que la porte, elle, s'ouvre plus. Et en souffrant plus, eh bien, il y a une plus grande capacité de transport des lipides. Et donc, ces sujets-là vont avoir, une triglycéridémie bien plus élevée que les autres, parce que les lipides rentrent très bien. Et puis, puisque ça rentre très bien, ils vont devenir très gros. Et comme ils deviennent très gros, ils deviennent insulino-résistants. Ils développent un diabète de type 2. Et ils sont très, très, très malades. Donc, c'est une population qui est vraiment très étudiée comme ça. Et il y a un certain nombre d'autres populations qui sont étudiées pour d'autres gènes économes. Donc, en fait, une partie de l'obésité qu'on peut avoir au niveau de la population mondiale est peut-être due au fait que pendant ces 4 millions d'années d'évolution, eh bien, une grande partie de la population a développé non pas un gène économe, mais peut-être plusieurs dizaines de gènes économes. Et actuellement, on en a décrit une bonne dizaine. Donc, il y en a sans doute beaucoup plus d'autres. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu, là je vais revenir sur des basiques plus de nutrition, lorsqu'on regarde l'équilibre énergétique, c'est très simple, c'est une balance entre les entrées, ce qu'on va manger, le nombre de calories qu'on va ingérer, et puis les dépenses, c'est-à-dire ce qu'on va faire. Et normalement, lorsqu'on est bien calibré, lorsqu'on est dans les bonnes conditions, on doit maintenir à l'âge adulte son poids avec, bien sûr, une petite dérive avec l'âge, mais bon, quelque chose de relativement peu important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'il y a un problème qui est celui de l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre très important des apports caloriques. Alors, on a vu tout à l'heure que ce déséquilibre est dû en partie à une modification qualitative des sources d'énergie sous forme de lipides et moins de sucre lent. Et surtout, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup moins d'activité physique. Donc, alors, parmi les pistes, il y a le toujours plus. Alors là, je vais vous donner un exemple. Eh bien, c'est l'évolution de la taille des portions alimentaires. Alors, vous voyez, le McDonald's, donc c'était le Burger King en 1954, celui de 2004. Bon, on passe même de 200 calories à plus de 300 calories, mais vous voyez, c'est surtout la taille, c'est ça qui est incroyable, c'est une augmentation de cette taille. On a exactement la même chose, toujours sur la même période, sur la portion de frites. La même chose sur la portion de Coca-Cola. Si jamais vous avez été aux États-Unis, c'est quand même assez étonnant de voir nos collègues, enfin nos amis américains se balader toujours avec des bouteilles énormes de soda avec eux. Il faut savoir que bon, les jeunes américains ados en moyenne consomment jusqu'à 6 à 7 sodas par jour en moyenne. Donc il y en a qui en consomment beaucoup plus que ça. Et là, c'est le cas des pop-corn. Et puis, moi, je vais de temps en temps à Dijon au cinéma. Et ça, c'est classique. Maintenant, on voit plein de gamins qui partent avec leur seau de pop-corn. Donc, en fait, on s'aperçoit que la taille des portions, burgers, frites, pizza, boissons sucrées, est multipliée par 2 à 5 fois au cours des 5 dernières années dans les fast-foods. L'autre piste, c'est le gavage médiatique, et notamment à travers la télé. Alors vous savez, on n'a qu'à regarder les émissions, la fin du 20h, sur 10 pubs, vous avez au moins 5 pubs agroalimentaires qui vous vendent de tout. Donc c'est extrêmement important. Si jamais vous regardez les émissions pour les enfants c'est une très bonne cible. Si jamais vous avez des petits qui sont en âge d'aller au supermarché avec vous, eh bien vous allez voir que bon, si vous les tenez pas correctement, eh bien vous allez repartir avec sa liste de commission, pas la vôtre. Donc, lorsqu'on regarde les pubs au moment des dessins animés, des séquences pour enfants, il y a énormément de choses sur les produits sucrés, etc. Notamment, il y a ce qu'on appelle le junk food. Alors ça, c'est très bon. On parle de plaisir, ça, il n'y a pas de problème. C'est très bon, c'est palatable, c'est goûteux, etc. Mais c'est des aliments qui sont très riches en calories et très pauvres en éléments nutritifs. L'autre piste, c'est le manque d'activité physique. Alors ça, c'est des statistiques, c'est une enquête française qui s'appelle l'enquête INCA. Et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu le code couleur, là, ça va être le pourcentage d'enfants que vous avez ici en abscisse, en ordonnée. En abscisse, c'est le jour d'école, les mercredis, c'est-à-dire les jours sans école, et la fin de semaine. Et donc, en fait, en blanc, c'est moins d'une heure passée devant écran. Alors, écran, c'est pas seulement la télé, ça va être les jeux vidéo, ça va être tout ce que vous voulez, l'ordinateur. En gris, de 1 à 2 heures. En orange, de 2 à 4. Et en rouge, plus de 4 heures. On s'aperçoit que, bien sûr, les jours d'école, il y a tout de même la majorité des enfants qui passent devant la télé, tout de même au moins une heure. Hein. Mais lorsqu'on est sur des périodes où il n'y a plus d'école, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation absolument dramatique hein, d'heures passées devant écran. Et bien sûr, ça contribue pas à faire de la dépense énergétique derrière. Une autre piste, c'est les calories pas chères. Alors là, encore un exemple, McDo, j'en veux pas plus que ça à McDonald's, quoique. Donc là, on voit très bien, par exemple, là vous allez avoir une portion qui est aux États-Unis à 89 $, avec 12, enfin un volume à peu près de un peu plus de 120 ml. Et là, vous allez avoir un demi-litre qui est à 1,59. Donc vous allez avoir pas du tout une proportionnalité entre le volume qui va être consommé et puis le coût. Donc ça va être vraiment des calories pas chères. Et puis dans ces cas-là, eh bien on a tendance hein, à prendre plus gros, hein, puisque on a l'impression de faire une bonne affaire. Et ici ça va être le coût. Là ça va être en euros. Et donc on s'aperçoit que vous allez avoir des produits qui vont avoir la qualité énergétique la plus élevée, qui vont avoir le coût le plus faible. C'est-à-dire qu'on va retrouver là-bas l'huile, le beurre, la margarine, les pommes de terre, le sucre, les légumineuses. Donc là, ça va être des produits qui vont être à faible coût de revient, très haute densité énergétique. Donc on se situe, bien sûr, lorsqu'on va avoir, par exemple, comme c'est le cas, il faut savoir qu'en France, hein, tout de même, actuellement, et c'est des statistiques de l'INSEE, hein, il y a 1 million de ménages au sens INSEE, hein, c'est-à-dire au sens du percepteur de ménages français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc ça fait à peu près 4 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants. Seuil de pauvreté, ça veut dire des revenus moyens qui sont inférieurs à 600 € pour le ménage par mois. Ça fait à peu près, vous voyez, une fois qu'on a tout payé, même si on a des aides, etc., ça fait une journée par personne où on peut consacrer entre 1 et 3 € pour manger, pour faire l'ensemble de ses repas de sa journée. Donc là, il est clair qu'il n'y a pas de choix alimentaire dans ces cas-là. En cas de précarité, il n'y a pas de choix alimentaire. Et donc, si les gens se retrouvent obèses, c'est pas de leur faute. C'est pas une question forcément éducationnelle. Vous voyez, ça, c'est une notion qui me paraît, moi, pour laquelle je suis très sensible. Parce que on a tendance, dans ces cas-là, si on dit que c'est éducationnel, à stigmatiser les personnes qui sont obèses et pauvres. Donc, alors que le problème n'est pas là, c'est un problème économique, c'est-à-dire que ça peut être solutionné peut-être par des voies politiques derrière. Il y a des nutriments non énergétiques, ce sont les vitamines et les minéraux. Alors leur rôle, ça sert à faire fonctionner les cellules. Ça sert aussi à faire de la croissance hein, quand on en a besoin. Par exemple, lorsqu'on a un petit enfant, il faut grandir, ou faire de l'entretien. Il faut savoir que, par exemple, là, chaque seconde qui passe, on fabrique, chacun d'entre nous, à peu près 6 millions de globules rouges. Chaque seconde. On en détruit 6 millions aussi. Donc, il y a tout ça à faire marcher. D'accord ? Donc, ça sert à tout ça. Alors, là, tout ce qui est énergétique, c'est la densité énergétique de l'aliment. Et c'est après ça que l'homme a couru sans arrêt, hein, pendant tous ces millénaires. Et à côté, ça va être la densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle, ça va être quoi ? Ça va être la quantité de vitamines et minéraux apportés par calories. Donc, un aliment qui va avoir une densité nutritionnelle très élevée, ça va être quelque chose qui va apporter beaucoup de vitamines et de minéraux et peu de calories. Alors, en fait, je vais finir sur cette densité nutritionnelle avant d'attaquer le plan national nutrition santé. Cette densité nutritionnelle, on s'aperçoit, on l'a négligée pendant très longtemps. Or, on s'aperçoit que couvrir les besoins énergétiques, c'est-à-dire avoir une densité assez de calories au niveau alimentaire, n'est pas suffisant pour rester en bonne santé. Il faut qu'il y ait une densité nutritionnelle qui soit élevée derrière, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que notre alimentation apporte beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux pour que ça puisse fonctionner. Il y a des études qui ont montré que lorsqu'on va avoir un déficit chronique en densité nutritionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on va avoir plutôt tendance à faire comme ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, hein, ou alors les très gros gourmands, hein, manger très sucré, très gras, etc., eh bien, on va avoir à terme, c'est-à-dire ce ne sera pas tout de suite, ce sera 10 ans, 15 ans plus tard, une augmentation très nette des risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. Donc, ça joue un rôle important à long terme. Et donc, c'est là-dessus qu'on essaye de communiquer. C'est très difficile d'arriver à faire comprendre ça aux gens. Donc, ça se fait à travers le plan national nutrition santé. Alors j'avais fait une photo, une diapo provoque. C'était en fait à quoi on sert en tant que nutritionniste lorsqu'on fait de l'information nutritionnelle. Eh bien, on sert à faire essayer de baisser d'un ton la cacophonie alimentaire nutritionnelle, parce que on a des informations à droite, à gauche, etc. Et j'avais mis sur ma diapo, comme vous voyez sur les paquets de tabac, fumer-tu, et bien j'avais marqué se nourrir-tu. C'est vrai, quand on écoute les gens, on dit mais mon Dieu, l'acte alimentaire, ça va être terrible. Non, ça doit être quelque chose, ça doit être un plaisir, comme a dit André, et il faut avoir un peu de bon sens. Alors, à quoi sert le plan national de nutrition santé ? Eh bien, ça sert pas du tout à stigmatiser les gens en disant « Ouais, vous êtes en surpoids, c'est pas bien. Ouais, vous mangez trop gras, c'est pas bien. » C'est pas ça, c'est d'essayer de donner des repères alimentaires en disant « Bah voilà à peu près ce qu'on pense. » Alors donc, on va continuer là-dessus. Donc, en fait, il y a des groupes d'aliments. Hein, vous savez qu'il y a le lait, les produits laitiers, riches en calcium, vitamines et protéines. La viande, œuf, poisson, c'est riche en protéines et fer. Les fruits et légumes, très riches en vitamines et minéraux. Là, ça, c'est très haute densité nutritionnelle. Les céréales, etc., là, c'est surtout des fibres et des glucides lents. On n'en consomme pas assez. Et puis, les matières grasses, il en faut. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire oh, « je mange plus de matières grasses ». C'est complètement idiot. La nutrition, c'est quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure. L'exclusion, ça entraîne un déséquilibre. Et à côté de ça, on a rajouté des groupes parce que c'est la réalité alimentaire aujourd'hui. Hein, c'est les sucreries. Et manger un truc sucré, c'est vachement agréable. Et puis, ce sont les boissons. Et boire un petit vin sympathique du Jura, etc., entre amis, c'est quelque chose de bien sympathique aussi. Donc, c'est pas à exclure. Alors, en fait, pour essayer d'organiser tout ça, on l'organise selon une pyramide. Vous avez déjà vu ces pyramides alimentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer au niveau de la pyramide, c'est que la base de cette pyramide, c'est une base verte. C'est une base qui est faite de végétaux. D'accord ? Donc, on va trouver hein, tout ce qui va être féculent, tout ce qui va être fruits et légumes. Et puis, au-dessus, en plus petite quantité, il va y avoir les autres groupes d'aliments. Et tout à fait en haut, ça, c'est pour le plaisir. Hein, ça va être un peu d'alcool, d'une manière raisonnable, un peu de sucrerie, de manière raisonnable, etc. Alors ça, c'est ce qui est proposé. Je vais vous mettre à côté la pyramide du jeune adolescent américain en moyenne. Vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez que vraiment, cette pyramide, elle va avoir du mal à passer les siècles. Hein. Ce n'est pas du haut de ces pyramides, 40 siècles. Non, mais alors là, elle tiendra pas le choc. Vous voyez tout de suite qu'il y a des déséquilibres colossaux, avec entre autres la partie haute, c'est-à-dire la partie plaisir qui est colossale, qui est très très importante. Et ça, vous voyez pourquoi ? Parce qu'il y a l'augmentation des parts, etc. Alors, en fait, quels sont ces repères ? Eh bien, on conseille de faire plus de. Alors, il y a plus de produits laitiers, éventuellement d'eau minérale. Alors ça, c'est poussé peut-être un petit peu par les majors du domaine Danone et Nestlé, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt dans l'eau minérale. Il y a une valeur ajoutée colossale. Mais en plus de produits laitiers, pourquoi ? Parce que ça apporte entre autres du calcium, et on sait qu'il y a des problèmes d'ostéoporose, notamment dans la population vieillissante, de plus en plus vieillissante, et notamment chez les femmes, puisque les femmes sont plus touchées à partir de la ménopause. Beaucoup plus de fruits et légumes. Alors, avec un problème qui est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui du coût. On a vu que les fruits et légumes, c'était à l'autre bout. C'est ce qui coûtait le plus cher. Et donc, dans le cadre de la deuxième du PNNS 2, qui a commencé à partir du 1er janvier de cette année, il y a eu des propositions qui ont été faites aux politiques. C'est-à-dire que, bon, eh bien, parmi les propositions, il y a une détaxation des fruits et légumes. Au lieu de passer d'une TVA de 19,6, on propose de passer à 5. Vous voyez, donc derrière, les scientifiques essayent de faire des propositions pour les politiques, et les politiques sont en attente. Je ne sais pas s'ils le feront. Hein. Et derrière ça, plus de céréales, plus de féculents, plus de légumes secs. Alors ça, c'est un truc que moi, quand j'étais petit, mon médecin, il disait, oh, bah, si jamais vous voulez pas, si vous voulez éviter de grossir, il faut pas manger de féculents, hein. Il faut pas manger de pain. C'est mauvais pour la santé, hein. Donc, actuellement, on dit tout à fait l'inverse, en disant, c'est des sources de sucre lent et il faut en avoir pour pouvoir maintenir une activité correcte pendant toute la journée, éviter les pics d'hyperglycémie qui est due au sucre rapide. Et à côté de ça, bien sûr, un peu d'exercice physique. Vous pouvez courir ou faire une activité. La recommandation, en fait, c'est très simple, c'est 20 minutes de marche par jour. Alors, vous voyez, c'est extra minimal. Alors, le moins, eh bien, c'est moins de graisse saturée. Alors, c'est pas moins de graisse, hein, c'est moins de graisse saturée. Risque cardiovasculaire, donc ça veut dire moins de viennoiserie, moins de pâtisserie, hein, moins de charcuterie, moins de beurre, moins de sauce et moins certains fromages. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut pas les supprimer, mais il faut faire attention, il faut modérer sa consommation. Moins de sucreries, donc éviter les sodas, les choses comme ça, et puis moins de boissons alcoolisées. Alors, à propos des sodas, je finirai là-dessus pour essayer de faire boucler la boucle par rapport au plaisir. Hein, tout à l'heure, il y a André Ollet qui vous a parlé du goût. Il y a une éducation du goût qui existe. Je vous remercie de votre attention.
C'était le nutritionniste Philippe Bénard qui s'exprimait sur les petits plaisirs alimentaires et leurs conséquences sur notre santé. André Ollet et Philippe Bénard intervenaient dans le cadre d'un colloque intitulé « Plaisirs et habitudes alimentaires » organisé par le pôle Innovation Alimentation Santé, une initiative de la Fondation de la Maison Louis Pasteur, fondation de l'Académie des Sciences. Retrouvez les autres conférences de la Maison Louis Pasteur sur le site de Canal Académie. Merci de votre écoute et à bientôt sur notre site.